Fréquence protestante, le Midi Magazine, Emmanuel Taïeb.
Bonjour à tous et toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Midi Magazine. L'émission d'aujourd'hui s'intitule « La mémoire des attentats ». Mes invités sont les universitaires Sylvain Antichamp et Jérôme Truc. Ils sont, avec d'autres chercheurs, membres de l'équipe REAT, REAT pour Réaction sociale aux attentats. Depuis 2015, voire depuis 2012, et la tuerie perpétrée par Mohamed Merah, la France connaît des années de plomb. Le pays a été ensanglanté par une série d'attentats, ceux de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher, du Bataclan et de Nice. Sans oublier ceux que la chronique pourrait finir par effacer, comme le meurtre d'un couple de fonctionnaires du ministère de l'Intérieur à Magnanville, à leur domicile, ou l'assassinat du policier Xavier Jugelet aux Champs-Élysées. La chronique efface surtout plus facilement les tentatives d'attentats, comme elle peine à remobiliser les innombrables attentats à travers le monde. Cette violence produit un maelstrom d'émotions dans la population. Sidération, indignation, colère, angoisse, courage ou volonté de revanche. Elle produit aussi des effets, politisation, mobilisation, création d'associations ou interventions auprès des pouvoirs publics. Elle produit enfin une communauté de destin quand des attentats en France ou à l'étranger sont réunis dans le temps et dans les esprits. Sur les réseaux sociaux, les photos de profil changent alors pour prendre le nom d'une ville touchée par le terrorisme. Je suis Bruxelles, je suis Londres, sur le modèle du « Je suis Charlie » de janvier 2015. Il se joue bien là quelque chose de l'ordre du collectif et de l'individuel, quelque chose de l'intime et du public. Les attentats de Charlie et du Bataclan changent bien sûr la vie de leurs victimes. Mais ils changent aussi visuellement et émotionnellement la vie de tout un quartier et le rapport des habitants à leur espace familier. Un lieu urbain n'existe en effet jamais en lui-même, il ne devient public qu'après des interactions. Ici, l'organisation de la mémoire des attentats, de France et d'ailleurs, avec des dépôts de fleurs, des dessins, des objets et des messages. La place de la République, par exemple, devient ou redevient une agora nouvellement réinvestie au gré des événements, lieu de mémoire des vies brisées, puis lieu militant avec Nuit debout. Comment une ville accueille-t-elle la mémoire de la violence? Et comment les individus, touchés ou non, réagissent-ils aux attentats? Je vais poser ces questions aux frontières de la sociologie et de la psychologie collective à mes invités. Bonjour Sylvain Antichamp.
Bonjour Emmanuel Taïeb.
Sylvain Antichamp, vous êtes docteur en sciences politiques, co-auteur de l'ouvrage « Visite scolaire » au pluriel, « Visite scolaire ». Histoire et citoyenneté, les expositions du centenaire de la Grande Guerre, paru à la Documentation française en 2016. Vous avez aussi signé tout récemment dans la revue Genèse un article intitulé « Comment étudier les pratiques mémorielles liées aux attentats ». Bonjour Jérôme Truc.
Bonjour.
Jérôme Truc, vous êtes chargé de recherche en sociologie au CNRS et responsable du projet de recherche REAT dont on parlait. En 2016, vous avez publié au PUF Sidération, une sociologie des attentats. J'avais d'ailleurs eu le plaisir de vous recevoir dans La Valeur de l'Homme sur Fréquence protestante pour ce livre le 21 mai 2016. En 2017, vous avez coordonné avec Nicolas Duvoux un dossier en ligne sur la vie des idées intitulé « Se saisir des attentats ». Je voudrais que profiter de votre présence pour que vous nous présentiez un peu ce projet de recherche et l'équipe, hein, REAT. Alors sur quoi travaillez-vous et comment travaillez-vous, Jérôme Truc?
Le projet REAT, c'est un projet de recherche collectif qui s'est créé en réponse à l'appel qui avait été lancé par le président du CNRS, Alain Fuchs, tout de suite après l'attentat du 13 novembre 2015. En décembre, l'appel est lancé et il y a une soixantaine de projets de recherche. C'est assez rare, hein, dans notre milieu, le milieu académique, d'avoir comme ça des appels ad hoc à la suite d'un événement qui soit lancé et qui permettent de financer de manière assez flexible. Une soixantaine donc de projets qui ont obtenu entre quelques milliers d'euros jusqu'à, je crois, 20-25 000 pour les plus importants, dont le projet REAT, parce que c'est un projet collectif. Beaucoup de projets étaient des projets individuels. Le projet REAT, c'est un projet collectif que j'ai déposé donc dans le sillage, effectivement, de la publication de mon ouvrage Sidération que vous rappeliez à l'instant. C'est alors une collègue, Sarah Gensburger, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, malheureusement, qui m'avait incité à le faire, parce que moi, à l'époque, j'étais... il faut resituer les choses. Hein, j'avais mon livre Sidération, une sociologie des attentats, est issu d'une thèse que j'avais soutenue récemment, en septembre 2014. Et j'étais donc à l'époque encore un jeune chercheur précaire, sans poste, alors que maintenant, je suis rentré au CNRS. Et Donc voilà, c'est Sarah qui, elle, m'avait dit, il faut que tu répondes à cet appel, vu le sujet. Et donc, on avait constitué comme ça une équipe dans laquelle donc on retrouve Sylvain Antichamp, auquel se sont agrégés aussi d'autres chercheurs, alors qui sont donc par exemple Fabien Truong, qui est professeur agrégé à l'université Paris 8, et puis aussi des doctorants, post-doctorants, je pense à Maël Bazin, Solveig Enberg, et d'autres. Alors, selon les différents terrains, en fait, il y a des étudiants qui nous ont rejoints de licence, de master, sous le travail se fait depuis 2 ans, voilà. Et donc on a essentiellement, c'est un travail collectif qui a permis d'aller sur différents terrains, je le dis très rapidement. Un premier terrain, c'est celui des enquêtes ethnographiques, dont on va le plus parler là, dans les quartiers frappés par les attentats du 13 novembre, mais aussi de Charlie Hebdo, parce que c'est le même, le 11e arrondissement. Même quartier. Sylvain pourra largement en parler parce que c'est l'un des terrains sur lequel il a le plus investi. On a aussi enquêté par ailleurs dans une ville en banlieue parisienne, Fabien Truong et moi-même en particulier, la ville de Grigny, d'où était originaire Amélie Coulibaly. Bon. Aussi un terrain sur le contenu des mémoriaux dans les rues, sur les sites des attentats du 13 novembre, qui ont été archivés par les archives de Paris. Et donc voilà, ça c'est aussi un travail qui est encore en cours, hein, de codage de ces contenus-là, de ces matériaux-là. Et voilà, donc différents terrains comme ça qui sont agrégés, aussi les réseaux sociaux. Hein, dans Sidération, une sociologie des attentats, dans mon livre, les matériaux étaient des matériaux manuscrits aussi, issus de ces mémoriaux de rue. Il n'y avait pas les matériaux issus de réseaux sociaux, parce qu'à l'époque des attentats que j'étudie dans ce livre-là, à savoir le 11 septembre, les attentats de Madrid en 2004, ceux de Londres en 2005, on n'a pas encore les réseaux sociaux.
C'était vraiment antérieur. Voilà.
Aujourd'hui, les réactions aux attentats, elles s'observent d'abord et avant tout immédiatement sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Et donc là, on a travaillé en partenariat, donc d'un côté avec les archives de Paris pour les mémoriaux de rue, de l'autre avec l'INA, qui a fait le travail d'archivage, en particulier des réactions sur Twitter à ces attentats de janvier et de novembre 2015. Et donc on a aussi, c'est à peu près le quatrième gros terrain du projet REAT, avec une ingénieure de recherche de l'ISP, notre laboratoire, Institut des sciences sociales du politique, notre laboratoire à moi et à Sylvain et à Sarah aussi, qui est Sandrine Cléris, donc une ingénieure d'études avec qui on a fait ce travail sur les tweets de réactions aux attentats.
J'ai le sentiment qu'il y a une sensibilité, en tout cas dans votre approche, au terrain et à la force du terrain. Vous mentionniez Grigny, le quartier du Bataclan.
Tout à fait.
Vous avez vraiment là cette approche-là, c'est spécifique.
Tout à fait.
Ça vous a intéressé.
Spécifiquement, ce qui caractérise, je dirais, l'approche du projet REAT, c'est un projet de sociologue et avec un rapport au terrain très ancré. Le but, c'est très concrètement, de rendre compte, dans leur pluralité, de comprendre les réactions d'une société à des actes terroristes. Dans un contexte où qu'est-ce qui se passe, bien souvent, on a beaucoup de commentaires, vous le disiez, il y a un maelstrom d'émotions, il y a souvent un emballement de la vie collective, du débat public, et donc il y a beaucoup de paroles qui sont portées sur les événements, sur les réactions, et là, la démarche consiste vraiment à ancrer le propos, et surtout, donc, ce qui est très important, à opérer un travail de décentrement, se doter de moyens, c'est l'enquête empirique qui le permet, justement, se doter des moyens d'aller voir comment les gens réagissent au-delà de notre propre milieu social immédiat. C'est ce qu'on explique toujours, Sylvain, Sarah et moi, aux étudiants qui viennent nous voir. Il faut d'abord commencer, quand on travaille sur les réactions d'attentats, par faire sa propre sociologie, sa propre socio-analyse. Quel est le rapport qu'on a à cet événement-là, comment nous-mêmes on l'a vécu. Parce que bien souvent dans ces moments-là, donc on ressent des émotions de manière très vive, de manière réflexive. On regarde autour de soi comment les gens réagissent, et comme le monde social est bien fait, on se rend compte qu'ils réagissent à peu près comme nous. Et donc on a l'impression que tout le monde, je l'entends d'ailleurs régulièrement, tout le monde en ce moment, par exemple là pour Charlie Hebdo, 3 ans après, récemment, un proche me disait « mais tout le monde y pense ». Tout le monde y pense. Et en fait, ce tout le monde traduit juste les gens autour de moi. Bon. Et donc, il y a un besoin de passer par l'enquête empirique pour aller voir au-delà comment ça se passe dans d'autres milieux sociaux, comment ça se passe au-delà de notre entourage immédiat, de manière à pouvoir rendre compte de la palette, de la variété des réactions que peuvent susciter de tels événements dans nos sociétés.
Sylvain Antichamp, on a mentionné le fait qu'il y a du terrain, de l'empirie. Alors vous avez fait beaucoup d'observations participantes, ou plus ou moins participantes d'ailleurs, vous allez nous le dire. À quoi ça ressemble? Donc vous êtes allé sur dans le quartier, hein, du Bataclan, de la République. Et alors qu'est-ce que vous y faites concrètement, qu'on comprenne comment se fait la recherche?
Oui, on avait, comme disait Jérôme, une forte sensibilité à l'approche ethnographique. Qu'est-ce que c'est l'approche ethnographique? C'est l'idée de s'immerger généralement dans un groupe, dans un groupe restreint ou dans un lieu. Et donc, très concrètement, à partir de janvier 2016, pour ma part, plus intensément à partir de mars 2016, je me suis rendu 3-4 fois par semaine à Place de République, ou devant le Bataclan, ou devant les bars attaqués, mais surtout la Place de République et le Bataclan, surtout d'ailleurs République. Et 3-4 fois par semaine, j'y allais, j'observais les gens qui s'arrêtaient face à la statue, qui s'arrêtaient devant les mémoriaux. Je regardais ce qu'ils faisaient et je réalisais des petits entretiens avec eux qui pouvaient durer 10 minutes, une demi-heure, deux heures. Entretiens qui se voulaient les plus informels possibles, avec beaucoup d'empathie, loin de la neutralité qu'on postule souvent dans l'entretien sociologique. Et l'idée, il y avait un postulat qui était assez important pour nous, c'était ne jamais parler directement des attentats, ou le moins possible. C'est-à-dire ne pas demander les gens « Est-ce que vous êtes venus vous recueillir ? Que pensez-vous des attentats ?» Mais laisser émerger ce thème.
Parce que ça, si on le fait d'emblée, ça pourrait braquer. Donc on se dit ils sont là pour une raison, mais on essaie d'y aller pas trop brutalement.
Ben on peut... là, il y a l'intérêt à comparer à travers certaines pratiques journalistiques. Évidemment, pas tous les journalistes, mais certains qui arrivent dans la même situation et qui vont demander aux gens « Pourquoi êtes-vous venu vous recueillir aujourd'hui ?» À partir de là, ça devient très dur pour le citoyen, pour l'individu, de dire qu'il a fait autre chose que se recueillir. Et en fait, de aussi dégager tout ce qui va être l'ordinarité de la situation, parce qu'il est passé par là, parce qu'il est dans un bar, parce que c'est son métro, pour attendre quelqu'un, il s'est arrêté. Voilà, tout ce genre de choses. Et en fait, voir. Donc ça, premier volet, c'est l'observation des lieux. Deuxième, c'est s'ancrer dans des groupes. Des groupes de voisins qui ont fondé des associations suite aux attentats, un groupe comme Nuit Debout. Et même postulat, c'est être avec les gens, agir avec les gens, être un acteur quasi comme les autres, et aussi voir en situation quand est-ce que le thème des attentats va émerger, qu'est-ce qu'on va dire, dans quel type d'interaction, etc. Donc c'est le postulat, un travail à long terme qui a duré plus d'un an et demi de façon très régulière, qui continue de façon plus épisodique, autour de cette question, pour voir en situation qu'est-ce qu'on fait avec ces attentats.
Alors qu'est-ce que vous avez observé, Sylvain Antichamp, quand vous êtes allé là précisément à République, dans les mémoriaux, qui sont des mémoriaux improvisés, qui sont des mémoriaux populaires, on va le dire comme ça. Qu'est-ce que les gens font ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils inventent des rituels, ils inventent des gestes, ils s'inspirent de rituels funéraires, ils allument des bougies ? Qu'est-ce qu'on y fait, en tout cas, dans les éléments qui vous paraissent les plus saillants ?
Alors, qu'est-ce qu'on y fait ? On s'approche, on s'arrête, un peu plus près, on va monter, déposer quelque chose, ou rallumer une bougie, s'écarter un peu, soit prendre une photo et repartir. Alors, la question, en fait, on est vraiment dans un mélange, pour moi, d'inventivité et de routine, parce que pour faire ce geste qui est relativement innovant pour eux, ils vont aller vers des répertoires d'actions qui sont très classiques. Donc, par exemple, quand on questionne les gens pourquoi une bougie, quelques-uns vont faire des références religieuses, mais beaucoup vont dire, pour rendre hommage, c'est une bougie ou des fleurs et j'avais des bougies chez moi. Donc on voit, c'est une forme d'imprégnation diffuse de ces rituels religieux, en tout cas de la façon dont les gens en ont conscience, une forme d'imprégnation diffuse et pas de geste directement religieux. Après, j'ai beaucoup travaillé pour essayer de comprendre le sens de ces pratiques. Et j'ai testé des hypothèses. J'ai relu mes entretiens, réécouté les gens, ça marchait pas. Au fur et à mesure, il y a deux hypothèses qui m'ont paru importantes pour comprendre, les plus enveloppantes pour comprendre qu'est-ce que les gens faisaient quand ils étaient là. Ça va paraître très simple, c'est la question être ensemble, voir que d'autres sont mobilisés. C'est aussi celle de voir en vrai. Et c'était finalement ces deux idéotypes, ces deux grandes modalités qui pour moi expliquaient pourquoi ces gens venaient là. Alors ça peut paraître très anodin, très peu intéressant finalement, mais si on essaie de problématiser, de construire ça, on arrive à des figures quasi politiques, infrapolitiques, enfin des choses assez fortes. Qu'est-ce que signifie vouloir être spectateur physiquement ? Qu'est-ce que signifie vouloir être spectateur collectivement ? Voilà, on arrive sur des choses finalement qui font sens alors que ça paraît des petits détails anodins à la base.
C'est assez anodin, mais quand des dizaines et des dizaines de personnes le font et que tous ces objets s'accumulent, là il y a quelque chose de l'ordre d'un fait social.
Ah, complètement.
C'était ça qui vous a intéressé, Jérôme Truc.
Et pour rajouter un point, rebondir sur ce que disait à l'instant Sylvain Antichamp, c'est deux motifs qui poussent à venir sur les mémoriaux, être ensemble et une fonction d'attestation aussi, voir en vrai, c'est quelque chose qu'on retrouve sur tous les autres sites alors comparables d'attentats islamistes massifs, attentats de masse dans les sociétés occidentales. C'est des choses qui ont été observées aussi à New York après le 11 septembre ou à Madrid où j'ai beaucoup travaillé après l'attentat de mars 2004. Et c'est quelque chose de quand même très intéressant parce que si on revient à ce qu'on disait là en préambule sur l'importance de la démarche ethnographique, empirique de sciences sociales et une démarche compréhensive, c'est que ces phénomènes-là, à fut une époque, on s'y intéressait pas trop. Bon, aujourd'hui, il y a tout un discours journalistique, effectivement, Sylvain le rappeler, sur le terrain, les journalistes sont très présents. Il y a beaucoup d'articles qui sont publiés à propos de ces mémoriaux-là, et il y a toujours besoin d'en rendre compte, d'en dire quel est le sens, d'imposer quelque chose sur... Et donc, effectivement, dans ce contexte post-attentat, bien souvent, ce qu'on disait aussi, il y a un besoin de commenter, de débattre, et où très vite on est dans le jugement. On est plus dans le jugement politique, normatif, que dans la compréhension, la démarche de compréhension. Et donc je prendrais juste une illustration de ce que je suis en train de dire là, c'est le rapport aux photos, par exemple. Sur ces mémoriaux, on voit régulièrement des gens qui prennent des photos, qui se prennent en photo. Et après le 11 septembre, par exemple, à New York, il y a eu tout plein de polémiques sur ce qu'on appelle le tourisme morbide. Le fait que des gens viennent, se prennent en photo. Et il y a une collègue, une sociologue américaine, une anthropologue américaine, qui a travaillé sur les pratiques des touristes à Ground Zero, de la même manière que Sylvain l'a fait dans le quartier de République, et qui tout simplement, en fait, a cherché à comprendre pourquoi les gens prenaient des photos, les a observés faire, puis ensuite a gagné leur confiance, a discuté de manière informelle avec eux, pour se rendre compte d'une chose assez simple, qui est qu'en fait, voilà, précisément, les gens viennent voir, et dans cette fonction d'attestation, la photographie a une fonction. C'est qu'elle permet d'attester qu'on est venu, et donc les gens expliquent que s'ils prennent en photo ces mémoriaux qui viennent là, c'est pas pour faire une photo souvenir au sens qu'on entend trivialement, mais c'est pour pouvoir montrer à ceux autour de nous qui ne sont pas venus qu'on y est allé, pouvoir dire c'était là, j'y étais, vous voyez, ça ressemble à ça, tout le monde ne le sait pas, tout le monde ne connaît pas, donc c'est... Et alors après, quand on demande aux gens, oui, mais enfin voilà, sur la photo, vous souriez, enfin vous êtes pris vous-même en photo devant en souriant, et les gens répondent benoîtement, mais c'est... Il faut entendre ce que ça veut dire. Sur une photo, ordinairement, on sourit. Voilà, quand on vous prend en photo, socialement, on a appris à sourire sur une photo. Alors, c'est pas qu'on fait un grand sourire, et ça veut pas dire qu'il y a pas des gens qui font aussi, voilà, des selfies en rigolant, etc., ce qui peut enlever d'autres choses. Mais pour la plupart des gens, on fait une photo là sur le site ou le mémorial, on a un sourire parce qu'on se prend en photo, et puis parce que par ailleurs, voilà, on pourrait considérer tout aussi illégitime, tout aussi d'un point de vue moral, tout aussi légitime de se mettre à tirer la tronche sur la photo, alors que soi-même, on n'est pas directement une victime. Il y a tout, on a vu beaucoup sur les réseaux sociaux, hein, beaucoup de gens dénoncer le fait que de simples citoyens qui ne connaissent directement aucune victime, s'épanche pour dire ce qu'ils ressentaient, etc. On leur reprochait de dire, bon, grosso modo, de quoi vous plaignez-vous ? Vous n'êtes pas parmi les victimes, vous connaissez aucune victime, donc vous n'allez pas commencer. Donc on imagine très bien que les mêmes qui pourraient se mettre à se prendre en photo en se montrant attristés, comme s'ils avaient perdu quelqu'un alors que ce n'est pas le cas, pourraient tout autant critiquer. Donc tout ça pour dire que ces phénomènes nous interrogent beaucoup, que très souvent on se retrouve du coup en position de vouloir en dire quelque chose, juger c'est bien, c'est pas bien. La démarche qui est la nôtre consiste plutôt à comprendre le sens des acteurs, en fait, ce qu'il y a derrière et pourquoi ils font ce qu'ils font.
Donc un certain nombre de comportements attendus, à la fois dans le dépôt de fleurs ou de bougies, dans la manière de faire une photo et effectivement de sourire à la photo. Donc il y a l'idée d'être de montrer qu'on a été présent sur le lieu de l'attentat. Mais il y a aussi, alors vous le disiez, l'idée ou le sentiment ou le besoin de fabriquer du collectif ou d'appartenir à un collectif. Il y a quelque chose de cet ordre-là.
C'est extrêmement fort. On peut partir d'un sociologue qui s'appelle Goffman, qui dit que...
Erwin Goffman,
que dans la ville, l'espace urbain, il y a un régime d'interaction ordinaire qui est celui de minimiser les interactions. Pas ignorer autrui, mais avoir le moins d'interactions avec autrui, le passant qu'on va croiser. Et en fait, on voit dans ces mobilisations, par exemple dans ces gens qui sont venus régulièrement en République, justement une forme de refus de cette indifférence civile. L'idée, c'est voir qu'il y a d'autres personnes avec qui on va pouvoir agir, même sans se parler, voir qu'il y a d'autres personnes. Ce qui montre en fait quelque chose de très important dans ces réactions d'attentats, c'est le rapport à l'espace urbain, à l'espace public, une réappropriation de l'espace public. Et c'est là où d'ailleurs on voit une continuité entre les réactions d'attentats et Nuit Debout. Continuité qui peut être refusée par certains acteurs, que ce soit des gens très engagés dans Nuit Debout, des gens très opposés à Nuit Debout, mais on voit une continuité puisqu'il y a cette dynamique être ensemble et réappropriation de l'espace public.
Alors c'est dans ce sens-là, Jérôme Truc, qu'on peut aussi analyser les grands moments de rassemblement, enfin, ces grands rassemblements qui font suite aux attentats, qu'on voit à Madrid, qu'on a vu à Paris. Ça renvoie à cette idée-là.
De ce point de vue-là, oui, moi je pense qu'il y a dans ces mémoriaux qui se créent après les attentats, dans la rue, dans ces rassemblements qui vont ensemble, parce que c'est les rassemblements qui font que rapidement les gens viennent déposer des choses là où ils se sont rassemblés, une sorte de fonction cathartique. En psychologie sociale, c'est quelque chose d'assez connu, hein, le besoin de se rassembler et de partager ses émotions, de communiquer quand on est confronté à une nouvelle traumatique. Et donc en l'occurrence, quand on apprend le décès de quelqu'un qu'on connaît, quel est notre premier réflexe généralement? C'est d'essayer de contacter les proches autour de nous, ceux qu'ils connaissaient aussi, savoir s'ils sont au courant aussi, ou alors leur annoncer et discuter avec lui, avec eux, de la personne décédée. Et après un attentat, c'est un peu ce que ressentent... Alors, évidemment, pas tout le monde, et c'est là où il ne faut pas verser dans la généralisation. Hein. Moi, mon travail de sociologue des attentats, finalement, il est parti quelque part d'une insatisfaction par rapport à J'avais 20 ans en 2001, et face au 11 septembre, le discours sur le monde entier est ému, le monde entier est dans la rue, et ce qui est évidemment pas vrai, et ce qui renvoie encore à un discours qui écrase la réalité d'un phénomène, qui surimpose un jugement normatif. Donc une volonté de comprendre, et de comprendre quoi ? Le fait que donc certains, effectivement, ressentent quelque chose de suffisamment fort. Alors ce que j'ai thématisé du coup dans mon livre et dans les recherches du projet READ sous la notion de concernement, le fait de se sentir, alors on n'est pas soi-même directement victime ou affecté, mais pourtant on se sent concerné. Beaucoup de gens dans les messages qui sont déposés, à la suite d'un rassemblement, expriment un paradoxe du concernement. Je ne connais aucune victime, mais pourtant je me sens affligé comme si c'était comme si j'avais perdu un frère ou et donc j'ai besoin de faire quelque chose pour pas me sentir voilà impuissant avec ma peine, etc. Et ce quelque chose, donc bien souvent, ça va se traduire par voilà, descendre dans la rue. On a beaucoup retenu aujourd'hui le 11 janvier, mais après Charlie Hebdo, le soir même, les gens se rassemblent dans la rue, vont à République spontanément. Alors après, on peut discuter de pourquoi République et pas ailleurs. C'est là où c'est intéressant, parce qu'on peut commencer à rentrer dans la matérialité des lieux. Bastille est plus près du siège de Charlie Hebdo que République, sauf que Bastille n'est pas une place piétonne, ça le sera bientôt, mais elle l'est pas. République, par contre, vient d'être refait et ouvert. Donc il y a les dimensions symboliques, mais aussi l'accessibilité des lieux. On retrouve ça après dans l'organisation des cérémonies commémoratives. C'est des choses dont on pourra parler après. Mais donc voilà, on observe après régulièrement, après les attentats, des rassemblements spontanés. Dans mon livre Fédération, je distinguais ces deux choses-là. Les manifestations avec cortège, mots d'ordre, comme le 11 janvier, et simplement les rassemblements spontanés qui relèvent de rituels de deuil, en fait. On a la même chose après la mort du pape, après la mort de Michael Jackson, ou après la mort de Johnny Hallyday, plus proche de nous. Des gens qui spontanément descendent en place publique, là où ils sont,
devant la maison du chanteur, par exemple.
Exactement, parce qu'ils ne peuvent pas rester chez eux. Voilà, ils ont besoin de partager ça avec d'autres personnes qui partagent la même affliction.
Alors du coup, est-ce que c'est politique ou est-ce que c'est dépolitisé, ces rassemblements ? Comment est-ce qu'on les lit ? Est-ce qu'on les lit comme un moment de cristallisation nationale, ou est-ce que finalement c'est des individus qui veulent refaire collectif, mais il n'y aurait pas de dimension politique ?
Alors,
Sylvain Antichamp.
Alors, peut-être, oui, un mot encore sur ces grands rassemblements. Grands rassemblements, ou pour compléter le propos de Jérôme, qui sont finalement en partie des rassemblements très classiques, parce qu'on a vu toutes les organisations qui se sont mobilisées pour que dès le 7 janvier, des gens descendent dans la rue. On a vu surtout un rôle très important, c'est celui des micro-réseaux de proches.
Bien sûr.
C'est les textos que vous avez peut-être reçus, les messages WhatsApp, les coups de téléphone, mais qui aussi ont un rôle dans le sentiment de gravité de l'événement. J'ai beaucoup d'entretiens où ils disent « mon père m'a appelé et j'ai senti que c'était grave ». Ou la façon dont mon enseignant m'a... Alors ça, c'était sur le septembre, mais la façon dont mon prof m'a parlé, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de très grave. Et donc, ces micro-réseaux qui sont très importants à la mobilisation. Pour le 11 janvier, quelque chose d'assez original, il semblerait, ça serait la première fois qu'un président appelle à manifester. À partir de ça, on a deux choses qui, en tout cas, moi, dans ce que j'ai pu voir, directement dans la matérie empirique...
En tout cas, en France.
En France, oui.
Parce que j'allais dire, après le 11 mars 2004, José María Aznar, chef du gouvernement à l'époque en Espagne, appelle à manifester. Ça lui a été largement reproché, enfin, ça a suscité des controverses, mais en tout cas...
François Mitterrand avait participé à la manifestation après la profanation du cimetière de Carpentras. Il avait rejoint le cortège à un moment, sans appeler à manifester, mais lui, il était allé à titre personnel. Mais là, effectivement, si les autorités appellent, c'est qu'effectivement, il se passe quelque chose de plus important que d'habitude.
Et puis, il y avait deux choses, en tout cas, dans ce que me disaient les gens qui me paraissaient intéressants. Premier, le sentiment de peur. Notamment le 7 janvier, mais aussi le 11 janvier, c'est « je vais manifester et j'ai peur ». Ce qui donnait en fait une forte valeur à leur présence physique sur les lieux. C'est-à-dire cette peur donnée, et des gens disent « j'ai eu le sentiment parfois d'une politisation par le corps ». Bon, c'est mon corps qui se politise, parce que j'ai toujours été engagé politiquement dans ma tête, mais mon corps se politise parce que j'avais peur qu'on me tire dessus. Deuxième élément qui me paraît très important, c'est la déception. Alors pas tous, mais beaucoup de gens ont investi en fait, enfin, parmi mes enquêtés, certains ont investi ce moment comme la potentialité d'une transformation des rapports sociaux, d'une plus grande solidarité, d'une plus grande proximité entre les gens. Et finalement, la suite des réactions, il parle de récupération politique, d'amalgame, etc., fait que cette séquence, là, on est sur la séquence Charlie, qui avait entretenu beaucoup d'espoir dans cette partie de la population, a induit une forme d'antipolitique encore plus forte que celle qui existait avant, puisque c'est un des sentiments prédominants quand on fait ces entretiens, c'est l'antipolitique.
Alors, cet antipolitique, il se manifeste comment ? Il y a un ressentiment à l'égard du gouvernement ou à l'égard d'une politique ? Comment ça se manifeste ? Ou à l'égard du fait que le gouvernement n'a pas su nous protéger ou qu'il a fait de mauvais choix en politique étrangère ? Comment est-ce que ça s'incarne ?
Alors là, beaucoup d'éléments, mais je vais justement revenir à la question précédente. Ces cérémonies, enfin ces pratiques commémoratives, on est dans une tension perpétuelle entre dépolitisation et politisation. C'est un phénomène majeur. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Les gens, quand ils vont être en interaction avec un mémorial, vont tenir des propos peu politisés, qui vont être du pacifisme, de la compassion, tout ce qu'a très bien analysé Jérôme. Mais en fait, en se reculant de quelques pas, ils vont pouvoir tenir des propos très politisés. Ça va être, de toute façon, c'est la faute de la politique étrangère de la France, il faut les tuer, les terroristes, ça peut être, c'est la cause de l'islam. Et donc, on a cette forte tension. Là, je vous dis, variation au sein d'un même individu, mais qui varie. Si, par exemple, il y a Macron qui va être présent, on va avoir des discours politiques ou pas. Donc, on a cette forte tension politique qui traverse ces gestes-là. Évidemment, je viens de perdre le fil de ce que je voulais dire avant, mais...
C'était politisation des politisations, et c'était là, voilà, enfin c'était ces éléments-là sur la manière dont les gens s'articulent. Mais peut-être, par exemple... J'avais un exemple qui est donné dans l'ouvrage de Sarah Gainsbourg sur qui s'appelle « Mémoire vive », donc c'était sur la grande statue de la République, place de la République. Il y a la question de la concurrence des lectures, qui est une concurrence politique, ou qui est une concurrence du sens à donner. Et donc, il y avait un slogan de la gauche radicale qui était apparu à un moment, qui était « Vos guerres, nos morts », et puis quelqu'un était venu en dessous mettre une banderole en mettant « Sang sur la France » pour dire « Attendez, ne nous mettez pas en accusation, c'est la France qui est victime de quelque chose ». Donc on voit qu'il y a un conflit là dans la lecture politique des choses.
C'est un phénomène assez fort, c'est celui en fait de réaction-réaction.
Mmh. Oui.
Finalement, parce que ces messages de compassion vont passer pour certains acteurs comme un apolitisme politisé. En faisant de la compassion, vous oubliez les causes politiques. Et donc, République et les autres mémoriaux, dès janvier 2016, dès mes premières observations, deviennent aussi des lieux pour... On sait qu'il y a un public qui va se rendre, et on va afficher des opinions politiques pour dénoncer cette compassion qui a rejeté dépolitisé.
Oui, c'est ça, on va sortir de la dépolitisation.
Et cette tension, on l'a là aussi à chaque fois. Le « Vos guerres, nos morts », c'est un slogan qu'on avait très très présent à Madrid, parce que beaucoup de gens considéraient que l'attentat du 11 mars 2004 était dû à la guerre en Irak, donc au fait que José María Aznar avait engagé l'Espagne en Irak avec les États-Unis, que sans ça, il n'y aurait pas eu ces attentats. Et d'autres étaient tout à fait en désaccord avec ça, sans compter que là-bas, il y a eu une polémique sur est-ce que c'est Al-Qaïda ou l'ETA, comme le voulait faire croire le gouvernement.
Premier jour, ouais.
Et ces réponses aux réactions, c'est cette conversation sociale qu'on peut voir à travers les mémoriaux, en fait. On la voit aussi, elle a été très bien analysée par une anthropologue qui s'appelle Béatrice Frankel après le 11 septembre, qui a écrit un livre qui s'appelle Les écrits de septembre, donc sur tous ces mémoriaux de rue dans les rues à New York après le 11 septembre, qui est un très beau livre qui, moi, a inspiré mon travail, qui a inspiré le projet REAT, où elle montre aussi comment il y a la tension à New York, ville cosmopolite, ville pacifiste, et en même temps, réaction américaine très belliciste, l'Amérique agressée, nouveau Pearl Harbor, etc. Et donc, dans les mémoriaux, on voit la tension entre ceux qui écrivent Peace and Love et ceux qui écrivent God Bless America, et ceux qui écrivent Bombs and All, et donc ceux qui raturent et qui mettent à côté, donc voilà, non, Bombs and All, non, ils raturent à côté Peace and Love, et puis les Peace and Love qui sont à nouveau raturés par un God Bless America à côté, bon. Et ça, donc on observe toujours dans ces mémoriaux, et c'est très important de comprendre que donc cette tension entre politisation et dépolitisation, elle tient au fait, ça renvoie à la question que vous posiez initialement, est-ce que donc, ces réactions aux attentats sont simplement sociales, apolitiques, ou est-ce qu'elles sont politiques? Elles sont les deux, mon général, en fait. Parce qu'on parle d'attentats, précisément. Quand on a la mort de Michael Jackson ou Johnny Hallyday, c'est purement social, c'est un deuil collectif partagé, qui peut éventuellement être politisé, voilà, mais si on a prêté à la figure une cause politique ou... Mais l'attentat, tout de suite, selon l'interprétation qu'on en fait, le deuil au départ est un deuil qui est social. C'est-à-dire que la plupart des gens face à Charlie Hebdo, le « je suis Charlie » d'abord, il a une signification qui est sociale, qu'on a très vite oublié, et qui aujourd'hui paraît inaudible, mais quand on la rappelle, je pense que ça fait du bien aux gens. Au départ, des gens se sentent Charlie, parce que ça leur rappelle le journal qu'ils lisaient étant enfant. Ils pleurent Cabu, ils pleurent Wolinski, ou ils pleurent Bernard Maris qu'ils écoutaient à la radio, c'est social. Sauf que très vite, Charlie Hebdo, il y a une dimension symbolique, ce qui fait la jonction entre le social et le politique, c'est le symbolique. Charlie Hebdo, c'est les journalistes, c'est la liberté d'expression, c'est la République, c'est la France, ça devient politique. Mmh. Et aujourd'hui, quand on demande aux gens « êtes-vous toujours Charlie ?», on est uniquement dans la politique, en fait. Et c'est pour ça, c'est ce qui fait toute la problématique de la mise en mémoire des attentats, c'est qu'au départ, si on a 4 millions de personnes dans les rues en janvier 2015, c'est parce qu'il y a cette effervescence sociale. Des tas de gens qui sont dans les rues pour des milliers de raisons. Il y a quasiment autant de raisons, je caricature un peu, j'exagère un peu, mais presque autant de raisons que de manifestants, d'être dans la rue, de se sentir concerné. Mais là-dessus, ensuite, vont se greffer tout plein de discours politiques. C'est quoi la politique? C'est de faire des collectifs. Et j'explique dans mon livre Sidération qu'on observe toujours, après un attentat, dans les premiers temps, une tension, parce qu'en fait, la mise en mémoire est tout de suite là. Quand on appelle à faire des rassemblements ou des manifestations, c'est déjà une forme de commémoration, en fait. Et on a tout de suite une tension, très palpable dans les radios-trottoirs, quand on interroge les gens à ces moments-là, entre ceux qui disent, oui, quand c'est spontané, alors Sylvain a raison, il faut toujours mettre des guillemets à dans quelle mesure c'est spontané, on a pu avoir une incitation par un SMS, un mail, etc. Mais les gens disent, voilà, le 7 au soir, quand j'apprends ce qui se passe à Charlie Hebdo, je descends dans la rue, ça va très bien, c'est du social. Mais dès qu'on commence à me dire que le 11 janvier, il faut aller manifester ou que le 8, il faut faire une minute de silence. Ah là, je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que quand l'appel procède du gouvernement, quand on dit, voilà, toute la France ou toute l'Union européenne doit faire silence, là, il y a une dimension institutionnelle, proprement politique. On institue des frontières à la communauté de deuil et beaucoup de gens peuvent ne pas être d'accord avec ça. Ils disent, voilà, pourquoi est-ce que là, on devrait pleurer pour ces morts et pas pour d'autres? Si on me demande d'aller manifester, je le ferai pas parce que je veux pas manifester derrière tel et tel homme politique en tête du cortège. Ça dénature la réaction. On a beaucoup entendu ça en janvier et on l'observe après chaque attentat. Et ce qui fait qu'après, quand on passe aux commémorations, les pouvoirs publics sont très gênés pour savoir comment commémorer. Et de toute façon, c'est ce qui fait aussi parce que non seulement ils sont très gênés pour savoir comment commémorer, quel discours tenir, quel discours politique tenir sur ces événements, en fait, on ne sait pas, parce que tout de suite on est dans la polémique, dans la tension entre différentes interprétations. Et puis parce que de toute façon, ce qui fait que les gens, au départ, ont réagi et sont nombreux dans la rue, c'est quelque chose de proprement social et qui ne vaut qu'à court terme. L'esprit Charlie, de ce point de vue-là, ne pouvait être que fugace. 3-4 ans après, on peut vouloir l'entretenir, l'invoquer, organiser des choses en son nom, mais ça relève de la pure politique. Et donc on aura forcément moins de monde qu'au départ, quand spontanément les gens réagissent pour des milliers de raisons qui tiennent au fait qu'ils sont socialisés, en fait, qu'on vit en société.
Ce qui m'a frappé dans vos écrits à tous, c'est que finalement, et je vous avais posé la question il y a un an et demi, c'est qu'on a assez peu de messages haineux. Par exemple, par rapport à l'islam, et en même temps, là, tout récemment, dans le cas de l'attentat de Nice, le lieu où l'auteur de l'attentat est mort est devenu un lieu défouloir, où les gens ont quand même pu exprimer ce type
d'émotion. C'est là où l'observation ethnographique est très très précieuse, et Sylvain va pouvoir vous le dire, parce que dans les messages collectés par les archives de Paris sur les sites des attentats du 13 novembre, il y a effectivement que moins de 1% de messages qui sont haineux, qui incitent à la haine raciale, et qui du coup n'ont pas été mis en ligne. Tous les messages ont été numérisés et ont été mis en ligne, sauf ceux-là. On pourrait dire, c'est merveilleux, c'est formidable, etc. Mais c'est qu'il y a aussi en amont beaucoup de censure sociale, de contrôle social. S'il y a un message comme ça qui plaît pas très vite, moi, in situ à Nice, j'ai vu quelqu'un écrire dehors les étrangers, hein, et quelqu'un qui avait vu ça, qui l'avait raturé immédiatement dans le quart d'heure où je l'avais repéré, quelqu'un arrivait pour raturer le dehors et mettre bienvenue aux étrangers. Bon. Et donc il y a beaucoup de censure, de contrôle social comme ça, et beaucoup d'auto-censure aussi, en fait. Des choses que les gens ne vont pas dire là, d'où l'intérêt d'aller voir aussi ailleurs, du coup, sur les réseaux sociaux, ou de faire de l'ethnographie, comme l'expliquait Sylvain, aller dans des milieux où là, des choses qui ne se disent pas publiquement peuvent se dire autrement.
On va écouter une interview de Françoise Rudetsky, présidente de SOS Attentat. Elle est à l'époque interrogée par Thierry Ardisson dans l'émission Tout le monde en parle. C'était en mars 2004.
En fait, ce qui a été déclencheur pour vous, c'est un papier dans le Figaro Magazine où on parlait de la restauration du Grand Véfour, du restaurant, après l'attentat. Et il y avait un mec qui avait écrit « L'attentat a fait plus de bruit que de mal ». Alors là, vous êtes effaré, vous dites finalement les choses ont plus de valeur que les gens dans ce monde. Vous écrivez à Louis Powell, ce qui s'excuse d'ailleurs, et vous dites il faut absolument faire quelque chose pour faire respecter les victimes des attentats. Et je dirais aussi, la deuxième raison, c'est les Tétinger, propriétaires du restaurant Le Grand Véfour, qui n'ont jamais voulu entrer en contact avec vous pour vous donner les clauses de l'assurance. Et en fait, à un moment, vous avez dit que vous ne serez pas indemnisé parce que de toute façon, la bombe était à l'extérieur. Donc, devant une telle injustice, vous avez décidé de créer SOS Attentat.
Oui, parce que je me suis posé la question de savoir ce qu'étaient devenues les autres victimes des attentats. Début des années 80 en France, il y a eu de nombreux attentats. On l'a oublié, mais il y a eu des attentats contre le restaurant Goldenberg. Ouais. Mais j'avais pris l'avion en juillet 83 et il y avait eu... à Orly, un attentat qui avait fait 8 morts et 60 blessés, dévastant complètement l'aéroport d'Orly. Et à mon retour de vacances, 3 semaines après, Orly était flambant neuf. Et personne ne s'était préoccupé de savoir ce qu'étaient devenus ces dizaines de blessés. Et l'idée de créer une association de victimes du terrorisme est née. Et très vite, avec l'aide des médias, nous avons retrouvé la trace de ces victimes.
Fréquence protestante. Le Midi Magazine, Emmanuel Taïeb.
La mémoire des attentats. Sylvain Antichan, ce statut de victime, là, dont parle Françoise Rudetsky, qui a été l'une des initiatrices hein, de ce statut ou de l'existence du statut de victime en France, de victime du terrorisme, c'est un statut qui fait sens apparemment aujourd'hui pour les individus, qui permet de peut-être se doter d'une identité, même si on veut pas être trop prisonnier, qui permet de se resocialiser, qui permet de s'exprimer. C'est ce que vous avez pu observer si vous avez travaillé sur ce type d'acteurs sociologiquement?
Oui, alors complètement, on peut un peu historiciser les choses, mettre en avant des parenthèses historiques, par exemple procès suite aux attentats à l'époque de Napoléon, mise en avant du statut de victime durant les procès au tribunal. Après, j'ai l'impression que cette figure disparaît un peu. Je connais des fortes mobilisations populaires, d'ailleurs, sur la monarchie juillet, suite aux attentats, bon, une parenthèse. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe? On arrive dans les années 1970 avec la politique de la mémoire qui se développe, qui devient un registre d'action publique comme un autre, un langage du politique comme un autre, et dans ce cadre-là émerge la figure de la victime. Or, que se passe-t-il avec les victimes que j'ai rencontrées? Certaines, on a des individus qui, du jour au lendemain, vont perdre un certain nombre de leurs proches, qui vont décider de déménager, qui vont perdre leur travail. Et là, on leur propose un statut qui est celui de victime, qui, dans le contexte d'aujourd'hui, et comme le rappelle l'entretien qu'on vient d'écouter, ce qui n'était pas le cas dans les années 80, est un statut extrêmement valorisant socialement.
C'est ce qui est contre-intuitif. Enfin, on pourrait le penser un peu différemment, que ce soit valorisant d'être une victime.
Bah c'est voilà, ce qui fait la conjoncture d'aujourd'hui. Et je vais vous donner une anecdote. C'est un pot organisé par une association de victimes où deux personnes se croisent et se disent « Ah tiens, je t'ai vu l'émission sur Canal et j'ai lu ton article dans Le Point. » Où c'est la fierté d'avoir un homme politique qui vient le saluer à côté. Donc en fait, on a des gens qui sont socialement déconstruits, socialement ravagés, et qui vont avoir cette ressource pour se reconstruire. Avec là des trajectoires très différentes, si on prend le phénomène 6 mois après, certains en fait, qui vont recomposer entièrement leur identité sociale autour du statut de victime, et d'une certaine façon qui risque de s'enfermer dedans, et d'autres justement qui vont essayer de s'en détacher selon le type d'interaction, selon ces éléments-là.
Et il faut ajouter en plus à ça que, effectivement, c'est une identité sociale, aujourd'hui, qu'on peut considérer comme étant positive, qui aide du coup ces individus à se reconstruire, mais qui les aide à se reconstruire un temps. Il y a un vrai risque aussi de se retrouver, beaucoup de victimes l'expriment, piégés dans cette étiquette victimaire, se retrouver à n'être plus qu'une victime, n'être plus que ça dans sa vie. Donc il y a des carrières de victimes aussi, on y rentre, on en sort, il y en a certains qui refusent d'y rentrer ou qui s'en déprennent très vite. On a vu quand même, par exemple, pour les associations de victimes du 13 novembre, là, il y a toute une génération déjà qui a passé, des gens qui s'étaient beaucoup investis dans la création des associations et qui ont ressenti le besoin maintenant de passer la main parce que ça prend beaucoup de temps et à un moment, on peut pas être que en permanence, à plein temps, notamment vis-à-vis des journalistes qui sont toujours en demande de ce que pensent les victimes, de témoignages de victimes, être à plein temps une victime. On a besoin à un moment de passer à autre chose dès lors qu'on s'est reconstruit. Et il faut aussi faire très attention à une chose, qui est un discours essentialisant sur les victimes en général, parce que les victimes aujourd'hui, donc du coup, sont devenues des acteurs à part entière, des interlocuteurs à part entière dans le procès, pour les hommes dans le cadre judiciaire, aussi pour les acteurs politiques qui veulent toujours savoir ce que veulent les victimes pour telle et telle cérémonie, pour etc. Sont aussi devenus évidemment des interlocuteurs pour les journalistes qui veulent toujours avoir le point de vue des victimes sur ce qui s'organise, sur etc. Et précisément parce qu'une fois encore, les attentats sont chargés politiquement, qu'il y a toujours un désaccord sur le sens à leur attribuer, sur les causes, les interprétations, etc. Les victimes, c'est ce qu'a bien montré un de nos collègues politistes, Stéphane Latté, qui a fait sa thèse sur cette catégorie sociopolitique de victimes, c'est que quel que soit l'événement auquel des individus peuvent être confrontés, même si on a tous été victimes de la même chose, le 11 septembre ou le 13 novembre, ça n'écrase pas tous les déterminants sociaux qui préexistent. Et donc, on retrouve toujours, c'est une constante, des clivages sociopolitiques entre les victimes elles-mêmes. Et donc ça, c'est un vrai problème, parce que quand on va organiser des cérémonies commémoratives, moi, je l'ai systématiquement observé, on a été, à plusieurs reprises, des membres de l'équipe Réa sollicités comme conseillers, donc on a participé à des réunions, j'ai rencontré Françoise Rudeski, qui a été très sollicitée pour elle, comme d'autres, sur voilà, que veulent les victimes pour telle et telle cérémonie. Il suffit qu'il y ait, même quand on a, donc pour le 13 novembre, deux associations, Life for Paris et 13-11 Fraternité Vérité, même si on a deux associations avec chacune des porte-paroles, elles vont jamais être d'accord entre elles. Donc on va toujours avoir une vraie difficulté à organiser une cérémonie qui serait la cérémonie nationale ou municipale ou à laquelle chacun participerait, parce que comme on n'interprète pas exactement les événements de la même manière, et comme finalement on est aussi au départ pas les mêmes socialement, on n'a pas les mêmes positions, tout ça se recoupe et complexifie les choses, il devient très très compliqué de savoir ce que veulent les victimes en général et d'organiser une cérémonie qui conviendrait à tout le monde, à la fois aux victimes, aux politiques, aux citoyens lambda, etc.
Apparemment, dans ce que j'ai lu en tout cas dans l'ouvrage de Sarah Gainsburger, il y a, on parlait du quartier du Bataclan, et visiblement les riverains ont apporté assez peu de choses aux mémoriaux. Donc c'est étrange, c'est-à-dire qu'il y a un mémorial dans le quartier, mais que ce sont des gens externes au quartier qui viennent, comme si le cœur de la mémoire était un peu évidé. Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que les riverains n'apportent rien, parce qu'ils sont là tout le temps, et que du coup ça fait pas sens pour eux, ou parce qu'ils le vivent différemment?
Alors, c'est une hypothèse sur laquelle on travaille.
C'est une anti-champ.
On a fait passer un questionnaire auprès de parents d'élèves d'une école située très près des attentats. À mon souvenir, je ne suis pas tout à fait sûr des chiffres, on avait 25% des parents d'une centaine de parents d'élèves qui avaient déposé quelque chose ou qui s'étaient arrêtés face aux mémoriaux. Que se passe-t-il très vite dans, chez les habitants du quartier, on a eu un sentiment de volonté de récupérer ces trottoirs, de retrouver
que
une
ça
vie,
redevienne
une vie normale. Et d'ailleurs, en fait, la politique d'archivage menée par la ville de Paris est en partie liée à ces demandes. C'est-à-dire, comment la question de la ville de Paris, c'était comment peut-on faire pour montrer notre concernement vis-à-vis des victimes, vis-à-vis des attentats, honorer les victimes, tout en permettant aux riverains de reconstituer des conditions de vie normales. Et l'archivage s'est imposé comme c'est la solution à ce dilemme public. Donc, premier élément, il y a cet effet de marquage du territoire local qu'ils essaient d'éviter. Deuxième élément, peut-être tout simplement, c'est que pendant un moment, les attentats saturaient des situations de vie quotidienne, des vies ordinaires, des discussions politiques ou intimes, etc. Et donc finalement, pour certains, cette nécessité d'une présence dans l'espace public des attentats était déjà là, en fait, pour ces riverains. Donc ils avaient peut-être moins besoin de ces espaces d'expression. Et après, évidemment, pour rejoindre ce que disait Jérôme, ça renvoie aux trajectoires biographiques des acteurs. Et donc, tel riverain va beaucoup investir l'événement, l'investir publiquement, alors d'autres vont avoir un rapport beaucoup plus intime à la mémoire et vont le maintenir dans la sphère privée.
Et ça, c'est très important, parce que de la même manière, c'est toujours pareil, quand on parle de ces événements en général, comme le font donc bien souvent les journalistes qui ne sont pas des sociologues, chacun son métier, on va avoir tendance à parler des victimes en général ou des riverains en général. Et ça aussi, c'est intéressant de s'interroger sur la catégorie de riverains, en fait. À l'instant, Sylvain, en parlant plus finement, s'est mis à parler d'habitants du quartier. Parce que le travail ethnographique, justement, permet de resituer les choses. Et là aussi, donc, d'un point de vue d'acteurs publics, souvent, on va dire, bon, alors, que veulent les riverains? Et en fait, se pose la question de qui est riverain et qui se revendique riverain. On se rend compte, dans l'enquête sociologique, que souvent des gens qui habitent dans le quartier, mais qui n'y vivent pas, en fait, enfin, qui ne font qu'y passer, ou qui y étaient pas le soir, bien qu'habitant juste à côté, sont assez peu marqués, et ont presque honte quand on leur pose la question de dire que non, ils sont pas traumatisés, par ce qui s'est passé à 100 mètres de chez eux. Tandis que d'autres qui sont pas habitants, mais qui se vivent comme riverains parce que c'est le quartier où ils travaillent, ou c'est le quartier, ils habitent dans le quartier juste à côté, mais ils sortent souvent par ici, etc. Eux se sentent vraiment traumatisés et ont honte de le dire aussi parce que, voilà, tout le monde autour d'eux leur dit, mais qu'est-ce que t'as à réagir comme ça et être traumatisé comme si t'avais été victime alors que tu connais personne et que t'habites même pas dans ce quartier, etc. Donc. Là aussi, il y a des enjeux autour de qui est ou n'est pas riverain, qui se perçoit ou ne se perçoit pas comme riverain. Et l'enquête ethnographique tend à faire exploser ces catégories-là, parce qu'effectivement, après, quand on va au plus près des individus, on se rend compte qu'il y a certes des sensibilités collectives, des grands courants de sensibilités collectives qui font qu'on s'indigne collectivement face à ce genre d'événement et qu'on se retrouve par millions dans les rues. Mais une fois encore, on est par millions dans les rues avec finalement des raisons différentes d'y être. Si on en discute entre nous, ça, tout de suite, on n'est pas forcément d'accord. Et concrètement, face à ces mémoriaux, qu'est-ce qu'on observe? Certains qui déposent des choses, d'autres qui déposent rien. Et puis après, quand les choses sont là, Sarah le décrit très bien dans son livre aussi, hein, certains qui disent il faut conserver tout ça, il faut surtout pas le retirer. Donc, par exemple, après Charlie Hebdo, le collectif 17 plus jamais qui se crée pour plastifier les mémoriaux, Place de la République, les hommages, les entretenir, etc. Et d'autres personnes qui passent en disant mais qu'est-ce que vous faites? Ces hommages sont éphémères par nature, c'est beau qu'ils soient éphémères, ils sont faits pour être envolés, pour être dégradés. Sarah raconte même quelqu'un qui dit, voilà, c'est fait pour être sale, les attentats c'est sale, donc laissez ça dans sa saleté, et ça partira à la poubelle, et c'est bien comme ça. Donc chacun a son ressenti, et donc chez les riverains, on l'avait observé aussi à Madrid ou à New York, et on l'a encore observé à Paris, certains riverains diront, bon, c'est plus supportable de vivre dans un cimetière à ciel ouvert, donc retirez-nous tout ça, et c'est bien qu'on le mette au musée. D'autres diront au contraire, parce qu'ils ont un autre rapport au deuil, ou mais non, mais c'est bien, vous nous retirez quelque chose, ça fait partie d'un travail nécessaire, on est gardien de la mémoire et vont se mobiliser pour garder ces mémoriaux. Donc immédiatement, ça génère aussi des tensions au sein de ce collectif qu'on pourrait avoir tendance à homogénéiser par ailleurs, des riverains, comme on a des tensions au sein des victimes. Parce que si on interroge les victimes sur qu'est-ce qu'il faut faire de ces mémoriaux, tous ne seront pas d'accord non plus.
Une des solutions trouvées pour pérenniser la mémoire, c'est de poser des plaques. On va écouter un reportage de BFM TV, c'était à l'occasion des de l'année écoulée, des attentats de janvier 2015, avec des inaugurations de plaques commémoratives. En fin de reportage, on entendra la voix de Roger Kuckermann, président du CRIF.
Un attroupement au 10 de la rue Nicolas Appert dans le 11e arrondissement. C'est ici, au siège de Charlie Hebdo, que les frères Kouachi ont fait irruption le 7 janvier 2015 et tué 11 personnes. Un an après, dans un silence solennel, le président de la République, accompagné de la maire de Paris, dévoile une plaque commémorative avant de déposer une gerbe de fleurs. Dans le marbre sont gravés les noms des 8 collaborateurs du journal, du policier garde du corps de Charbes, de l'agent d'entretien et de l'invité de la rédaction, tous tombés sous les balles des terroristes.
C'est très important pour les âmes de tous ceux qui sont partis, ceux qui sont morts. Toute la souffrance qu'il y a eu.
Il aurait fallu faire une statue ou quelque chose. Le plus important, c'est banal. Je trouve que c'est banal face à l'importance de ce méfait.
Mais une faute d'orthographe s'est glissée dans le nom de Georges Volinsky. La plaque est aussitôt mise à l'abri des regards pour réparer l'erreur. Le Y s'est mué en I. Une nouvelle plaque sera ensuite installée dans les meilleurs délais. Quelques mètres plus loin, sur le boulevard Richard Lenoir, c'est à Ahmed Merabet qu'il est rendu hommage. Ce policier de 42 ans qui s'était interposé lors de la fuite des assaillants et qui fut froidement abattu par l'un d'eux. Même cérémonial, le président et la maire de Paris dévoilent une plaque à sa mémoire. Il est inscrit qu'Ahmed Merabet est mort dans l'accomplissement de son devoir. Une précision importante pour ses collègues policiers.
Il est mort parce qu'il a servi, parce qu'il était policier, parce qu'il intervenait pour protéger des cibles de terroristes.
Une gerbe est déposée en présence de Manuel Valls, puis le président, la maire de Paris et le premier ministre se dirigent vers les proches d'Ahmed Merabet pour les saluer. Le cortège officiel se dirige ensuite vers la porte de Vincennes et l'Hypercacher, lieu de la prise d'otage du 9 janvier. Ici, 3 clients et un employé de l'épicerie ont été tués par Hamedi Coulibaly. Là encore, une plaque commémorative est dévoilée, une gerbe bleu-blanc-rouge déposée. L'Hypercacher devenu lieu symbolique de la lutte contre le terrorisme.
Aujourd'hui, ce n'est pas seulement les juifs, ce n'est pas seulement les journalistes, ce n'est pas seulement les policiers qui sont visés, c'est tous les citoyens de ce pays. Et il est important que nous soyons tous unis.
Fréquence protestante, le Midi Magazine, Emmanuel Taïeb.
La mémoire des attentats. Sylvain Antichamp, visiblement, il se joue quelque chose de très particulier dans la pose de la plaque, dans la pose même et puis dans l'emplacement. Dites-nous quelques mots là-dessus.
Alors d'abord, la plaque commémorative, c'est le mode d'action habituel de la ville de Paris pour rappeler le passé. À Paris, on a à peu près 1600 plaques, dont 1250, 1300, on va dire, qui se rapportent à la Deuxième Guerre mondiale. Donc finalement, en faisant ça, la mairie fait ce qu'elle fait habituellement face à des événements historiques. Pour parler des emplacements des plaques du 13 novembre, on a un phénomène assez intéressant, c'est que les plaques ne sont jamais sur les lieux mêmes. Elles sont, par exemple,
sur le trottoir. C'est contre-intuitif. On ne va pas les mettre sur le lieu même.
On va prendre la bonne bière, on a le café, la bonne bière. En face, il y a un petit square, et à l'endroit où étaient avant indiqués les horaires du square, maintenant il y a la plaque. Le Bataclan est un peu particulier au regard des autres lieux parce qu'on a un dédoublement de la plaque. Une petite plaque sur le bâtiment, cette fois, donc c'est le seul bâtiment où il y a la plaque elle-même. Et un deuxième dans un square qui fait face à la poste, qui était beaucoup occupé par des personnes sans domicile jusque-là. Et donc il y a cette politique du lieu, en fait, la politique de la mémoire est une politique du lieu aussi pour rendre les lieux à leur fonction usuelle. Ce qu'on disait tout à l'heure, que les gens puissent récupérer leur trottoir, que le bar demeure un bar et pas une église, un temple, etc. Autre élément, ce qui me paraît vraiment très intéressant dans ces plaques, ces lieux commémoratifs organisés suite aux attentats, c'est les difficultés de l'État ou de la ville à capter, à orienter les pratiques des populations. Un exemple, et Jérôme pourra aussi en parler, sur la place de la République, il a été fait en janvier 2016, c'est ça, pour les un an de l'attentat de Charlie, un arbre du souvenir. Et en fait, cet arbre du souvenir a été très peu approprié par les individus. Ils continuent à déposer leurs messages, leurs fleurs sur la statue et n'allaient pas à l'arbre, ou très peu.
Très peu de gens savent qu'il existe.
Très peu de gens savent
aussi
qu'il existe.
Aussi parce qu'il n'y a pas de panneau depuis la place pour indiquer que là-bas, il y aurait un arbre commémoratif.
Et on voit aussi, d'ailleurs, quand il y a des anniversaires, les gens vont souvent déposer les fleurs devant les lieux avant qu'elles soient transférées devant les plaques. Donc on voit, en fait, finalement, cette incapacité de l'État à vraiment gérer ces flux.
Les autorités, Jérôme Truc, ont l'air un peu faiblement inventives, ou en tout cas...
Assez démunies,
ou prises dans des routines, on va faire une plaque, mais rien de très nouveau.
Et planter des arbres, c'est pareil, c'est une routine aussi. Il y a cet arbre, Place de la République, il a une histoire qui est quand même intéressante, c'est qu'en fait, l'idée, juste avant l'attentat du 13 novembre, en octobre, la mairie de Paris avait annoncé que, suite aux attentats de Charlie Hebdo, on allait planter 17 arbres, Place de la République, un par victime, ce qui est très classique. Il y a 191 arbres qui ont été plantés à Madrid après l'attentat du 11 mars, qui a fait 191 morts, dans le parc en face de la gare d'Atocha. À New York, à Ground Zero, il y a aussi des arbres qui ont été plantés. C'est systématique de planter des arbres. C'est un symbole de vie, de résilience. Et là, si on a eu qu'un seul, c'est qu'il y a eu juste après, donc le 13 novembre, et tout d'un coup, on allait se retrouver à devoir compter, ça devait être des oliviers au départ, donc on allait se retrouver à faire une olivraie avec des centaines d'oliviers à Place de la République, c'était pas possible. Donc ils ont opté pour un seul chêne qui un jour sera centenaire, magnifique, somptueux peut-être, s'il meurt pas d'ici là de maladie, mais qui pour l'instant est chétif, que personne ne remarque et qui n'a aucune fonction mémoriale, il y a pas de panneau pour indiquer que c'est là. Et donc ça, effectivement, ça renvoie au fait que face à ces événements-là, les pouvoirs publics se disent qu'il faut faire quelque chose. Répertoire d'action classique, on met des plaques, on plante des arbres, mais on a du mal à faire plus. Et si on a du mal à faire plus, c'est qu'on a du mal effectivement à apporter un discours politique proprement sur ces événements-là. Les cérémonies commémoratives, par exemple, pour le 13 novembre, mais c'est vrai aussi pour Charlie Hebdo, on le voit, les pouvoirs publics viennent déposer des gerbes sur les plaques sans faire le moindre discours. Et quand des cérémonies plus importantes sont organisées, c'est si les victimes le souhaitent. Et souvent, celles qui les organisent elles-mêmes pour le 13 novembre, c'est Life for Paris qui organise sa cérémonie sur le parvis de la mairie du 11e. À chaque fois, l'année dernière, comme cette année, le président de la République est présent, mais il ne fait aucun discours. Certains dans le public s'en indignent en disant c'est quand même pas possible, la nation est représentée mais il n'y a aucun discours politique qui est porté. D'autres au contraire considèrent que c'est normal, c'est une manière de respecter les victimes.
Donc les pouvoirs publics paradoxalement dépolitisent et la population peut elle repolitiser. En tout cas, cette émission s'achève sur ces quelques mots. Je tiens à remercier chaleureusement mes invités, Sylvain Antichamp qui signe notamment donc un papier bilan dans la revue Jeunesse de décembre 2017. Je signale l'ouvrage de Sarah Gainsburger dont on a parlé depuis le début, qui devait être avec nous et qui s'est excusée. L'ouvrage s'appelle Mémoire vive. Il est publié aux éditions Anna Moza, un bel ouvrage avec beaucoup de photographies. Jérôme Truc, donc je rappelle le titre de votre ouvrage, Sidération au pluriel, une sociologie des attentats. C'est édité par les PUF. On trouve certaines des publications de l'équipe Réad sur le site hypothèse.org, donc réad.hypothèse au pluriel.org. Cette émission sera en podcast très rapidement sur le site de Fréquence Protestante. Merci à Emmanuel Demisco à la technique. À très bientôt.